La semaine passée, je traversais une petite ville de cette région. Et en plein milieu de la ville, il y avait un panneau à vendre. Et en face de ce panneau, il y avait une église, une grande église. Et j'ai pensé en passant dans cette rue que ce spectacle que l'on voit aujourd'hui de plus en plus souvent est un spectacle que l'on ne voyait pas autrefois. On construisait des églises, on ne les vendait pas. Aujourd'hui, on vend les églises parce qu'elles sont vides, plus personne n'y va. Les gens, c'est vrai, ne s'intéressent plus autant aux choses de Dieu qu'autrefois. Mais il n'y a pas seulement cela. On rencontre beaucoup de gens aujourd'hui qui ont peur de l'Église, qui n'aiment pas l'Église, qui n'aiment pas que les questions religieuses soient structurées, organisées, encadrées. Ils préfèrent construire leur religion à leur manière, la construire d'une manière très personnelle, très individualisée. Ils préfèrent faire leur religion selon leurs propres recettes à la maison. Certains étudient la Bible, certains choisissent dans la Bible ce qui leur convient. Et on a de plus en plus tendance aujourd'hui, en particulier dans le monde occidental, à vouloir d'un côté se faire une religion à soi, personnelle, à la maison, et à vivre de l'autre côté toutes sortes d'émotions avec d'autres gens. Cependant, l'Église de Dieu, souffre et semble diminuer. L'Église, en réalité, c'est ce corps du Christ, et le corps du Christ a comme tête Jésus lui-même. Dans cette situation que nous vivons dans le monde aujourd'hui, le corps du Christ semble se réduire, semble diminuer, semble maigrir et devenir rachitique. Qu'en est-il du corps du Christ ? Est-ce que nous devons avoir peur de l'Église ? Est-ce que nous devons craindre d'appartenir à ce que Dieu a structuré, organisé ? J'aimerais prendre dans sa parole certaines illustrations qui sont placées dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament pour nous aider à comprendre comment Dieu regarde l'Église. Quel est son projet pour l'Église ? La première illustration, je la trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse au chapitre 12. Il y a là une histoire que vous connaissez bien et que j'aimerais reprendre avec vous. Elle concerne Abraham. Abraham entend l'appel de Dieu et quitte sa ville, Ur en Chaldée. Il part vers le nord, vers la ville de Charan. Et puis ensuite, il descend vers Sichem, au sud. Abraham va traverser toutes sortes d'événements, et puis il va être confronté à quelque chose qui arrivait encore fréquemment à ce moment-là, la famine. Difficulté de trouver de la nourriture. Abraham va donc descendre là où il y a de la nourriture, il va aller en Égypte. Et en voyage, Abraham réfléchit. Et il se dit, j'ai un problème, c'est que ma femme est belle. Elle avait 66 ans, comme quoi une femme de 66 ans, en tout cas à cette époque, peut encore être belle. Sa femme avait 66 ans. Elle était fort belle, dit le texte. Et ça, c'était un problème. Il s'est dit, on va vouloir me la prendre. Seulement, pour me la prendre, il faudra me tuer. Abraham n'avait pas envie de traverser cette expérience-là. Alors, il discute avec Sarah et lui dit, écoute, en Égypte, on va dire qu'on est frères et sœurs, d'accord ? Comme ça, ça préservera la situation. Arrivé en Égypte, évidemment, Sarah est remarquée. Les gens se retournent sur son passage. Et puis finalement, ça vient jusqu'aux oreilles du pharaon à qui on dit « il y a là une femme étrangère qui est d'une beauté extraordinaire ». Alors Pharaon la fait kidnapper. Et ce que Abraham prévoyait est arrivé. Un jour, plus de Sarah. Elle est emmenée au palais de Pharaon. Et là, selon la tradition, on va l'emmener dans la maison des femmes et on va commencer à la préparer. Chez les Égyptiens, il fallait un mois pour préparer ces femmes avant de les introduire auprès du roi. Pendant un mois, ces femmes subissaient toutes sortes de traitements. Elles devaient probablement passer toutes les crèmes d'Yves Rocher pendant un mois pour être prête, pour être présentée au Pharaon. Pendant ce mois, Dieu a eu le temps d'intervenir, nous dit le texte. Dieu est intervenu et il a frappé la maison de Pharaon de plaies. Nous ne connaissons pas ces plaies. On comprend seulement que la maison de Pharaon a été particulièrement perturbée. Pharaon savait bien qu'il ne peut pas voler la femme de quelqu'un d'autre. Donc sa conscience l'a quand même un peu tourmenté et il a fini par faire le lien entre le rapt de Sarah et les plaies qui frappaient sa maison. Finalement, il fait appeler Abraham parce que Pharaon découvre que Sarah n'est pas sa sœur, mais sa femme. Alors Pharaon s'adresse à Abraham et lui dit, c'est dans Genèse chapitre 12, verset 18, « Qu'est-ce que tu m'as fait ?» Il veut essayer de faire tomber la faute sur Abraham. Tu n'aurais pas dû dire que c'est ta sœur, tu aurais dû dire que c'est ta femme. Pharaon, remarquez, avait quand même une idée très claire, au fond de sa conscience, sur ce qui est bien et sur ce qui est mal. S'il faisait un effort, il était capable de comprendre la gravité de ce que peut être l'adultère. Et ainsi, Dieu a protégé Sarah. Pharaon, furieux, renvoie Abraham, le chasse, renvoie Sarah et lui donne tout ce qu'il veut, des richesses. Va-t'en, va-t'en, sors d'ici. Pharaon avait pensé faire de Sarah sa possession. Mais elle était déjà la possession d'Abraham et de Dieu aussi. Finalement, c'est avec les possessions de Pharaon qu'Abraham s'en va. Et Abraham repart vers la terre promise. Cette expérience, curieusement, Abraham va la vivre deux fois. Dans le même livre de la Genèse, au chapitre 20, il nous est rapporté que Abraham va de nouveau voyager, qu'il va aller dans la ville de Guérar. Abimélec est le roi de cette ville. Et en y voyageant, Abraham a de nouveau cette pensée. Il s'est dit, ces gens sont des gens violents, ils ne craignent pas Dieu. Quand ils vont voir Sarah, ça sera la catastrophe. Et je vais en de nouveau avoir ma vie en péril à cause d'elle. Donc il discute avec Sarah, il dit, écoute, on va dire que tu es ma sœur et que je suis ton frère. Et c'est ainsi que Sarah est présentée, la sœur d'Abraham. Seulement, Abimélec, dans cette petite ville, s'est vite rendu compte que Sarah est d'une beauté extraordinaire. On ne laisse pas une personne comme ça dans la rue. Il l'a fait kidnapper. Et ce qu'Abraham avait prévu est arrivé. Un jour, plus de Sarah. Dieu la va intervenir. Et le texte nous dit, dans Genèse au chapitre 20, au verset 3, que pendant la nuit, Dieu a parlé à Abimélec et lui a dit, « Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. » Et dans cette vision, Abimélec va négocier avec Dieu et lui dit, mais moi je ne savais pas, c'était sa sœur. » Dieu dit, « Non, ce n'est pas sa sœur, elle a un mari. » Et Dieu va lui répondre dans cette vision et lui dire, c'est au verset 6, « Je sais que tu as agi avec un cœur pur, aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Maintenant, rends la femme à cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. » Le message de Dieu est clair. Rends cette femme, elle ne t'appartient pas. Et si tu pèches, ce sera contre moi, dit Dieu. Vous remarquez en passant que dans le message que Dieu donne, l'adultère est considéré comme vraiment une faute grave. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais on considère peut-être difficilement aujourd'hui que ce péché-là a aussi ces conséquences-là. Et que ce péché-là est une faute contre Dieu d'abord. Abimélec va appeler Abraham et curieusement lui poser la même question dans Genèse au chapitre 20 et au verset 9. Il va lui dire, « Que nous as-tu fait ? Lui aussi va essayer de remettre la faute sur Abraham en disant, mais tu as dit que c'est ta sœur, c'est pour cela que je l'ai prise. Alors Abraham va expliquer, oui, mais c'est quand même ma sœur, en fait c'est ma demi-sœur. Ben c'est ma femme aussi, mais c'est ma demi-sœur, donc c'était une demi-vérité ou un demi-mensonge. Ma demi-sœur. Abimélec va faire comme Pharaon. Il va dire à Abraham, écoute, prends ta femme et va-t'en. Et il va faire bonne mesure. Regardez au verset 16. Genèse chapitre 20, verset 16, il est dit, « Voici, je donne à ton frère 1000 pièces d'argent. Cela te sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi et auprès de tous tu seras justifié. » Il lui donne plein d'argent, mais s'il te plaît, pars d'ici. Vous avez remarqué, je donne à ton frère 1000 pièces d'argent. Tu as voulu jouer au frère de Sarah, voilà. Prends cet argent et va-t'en, sauve-toi, je ne veux plus te voir. Ainsi, Dieu en intervenant va protéger Sarah, va libérer Abraham. Et Abraham, chaque fois, s'en va avec des richesses supplémentaires. Il ne part pas à vide, il ne part pas plus pauvre. Non, il part enrichi des richesses de ceux qui le chassent. Dans le livre des psaumes, le psaume 105, parle de cela comme s'il s'agissait d'une prophétie. Psaume 105, nous lirons le verset 13 à 15. Au verset 13, il est dit, « Et ils allaient d'une nation à l'autre, d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer, et il chassa des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oints, ne faites pas de mal à mes prophètes. » Et c'est ainsi que Dieu avait présenté Abraham à Abimélec. Cet homme est un prophète. Le livre des psaumes fait écho à cet événement et rappelle que Dieu était intervenu pour protéger son prophète Abraham et Sarah. Maintenant, cette histoire que Abraham a vécue deux fois se reproduit encore dans l'histoire du peuple un peu plus tard. En réalité, presque deux siècles plus tard, le peuple d'Israël va se retrouver aussi en Égypte, pour la même raison, à cause de la famine. Et vous connaissez toute l'histoire de Joseph, cette belle histoire, dramatique mais extraordinaire, qui conduit finalement Jacob et tout son clan, le peuple de cette époque-là, à venir en Égypte, parce qu'il y a là des ressources qui manquent ailleurs. Ainsi, le peuple naissant va s'installer en Égypte, à cause de la famine. Mais dans le livre de l'Exode, il nous est rappelé, au chapitre 5, que finalement, après la mort de Joseph, les pharaons qui se sont succédés ne connaissaient pas Joseph et n'avaient pas vu de leurs yeux l'action de Dieu auprès du peuple. Ainsi, ils ont considéré la présence de ce peuple parmi eux comme une menace. Ils étaient, de toute évidence, bénis abondamment. Et les pharaons craignaient que, s'ils étaient en guerre, ce peuple qui était là au milieu d'eux ne prenne le parti de l'ennemi. Alors ils se sont dit, il faut couper la force de ce peuple en le donnant du travail. Et les pharaons ont asservi ce peuple à l'esclavage. Esclavage qui a duré pendant longtemps. Le peuple soupirait, criait à Dieu pour qu'il réalise les promesses données à Abraham. Pendant plusieurs siècles, le peuple a été opprimé, jusqu'au jour où finalement Moïse est envoyé par Dieu. Et vous vous souvenez comment Moïse va s'adresser au Pharaon au chapitre 5 en lui disant « Laisse aller mon peuple, dit l'Éternel. Laisse aller mon peuple. » Pharaon va répondre en disant « Moi, l'Éternel ne connaît pas. Je n'ai pas à obéir à l'Éternel, je ne le connais pas. Le peuple est esclave, un point, c'est tout. » Mais là, Pharaon est en train de découvrir que Dieu a la tête plus dure que lui. Parce qu'une plaie ne suffira pas, deux non plus, sept non plus, il en faudra 10, 10 plaies. Dieppe est absolument dramatique. Si vous essayez de réfléchir et d'imaginer les catastrophes nationales que ces plaies créent en Égypte, essayez de les traduire en termes d'aujourd'hui. Je ne vois pas comment un pays pourrait se relever de catastrophes successives comme celle-là. 10 plaies. Et finalement, Pharaon, lui aussi, pensait faire de ce peuple sa possession. Mais ce peuple appartenait à Dieu. Il avait besoin de l'apprendre. Lui aussi va arriver au bout de ses ressources. Et dans le livre de l'Exode, au chapitre 12, au verset 31, nous lisons ceci. Exode, chapitre 12, verset 31. Dans la même nuit, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit. Curieux parce que le chapitre suivant nous indique que Pharaon avait dit à Moïse et à Aaron, « Ne vous hasardez plus à revenir en ma présence. Je ne veux plus jamais vous voir. » Mais une plaie suivante a suffi pour que ce soit Pharaon qui les appelle et qui leur dise, verset 31, « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis, vos bœufs comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. » Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays, car ils disaient « Nous périssons tous. » Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle soit levée. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et les mirent sur leurs épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit, et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or, des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple, aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande, et ils dépouillèrent les Égyptiens. Là encore, le peuple sort, chargé de richesses colossales, et chassé du pays. C'est en réalité la même expérience que ce que Abraham avait vécu. Et où va le peuple de nouveau ? Il remonte vers le nord pour aller vers la terre promise. L'expérience d'Abraham avec Sarah est une expérience qui se retrouve avec le peuple. Et vous vous souvenez comment dans les Écritures, la femme est un symbole du peuple de Dieu. Il n'est donc pas surprenant de retrouver dans l'histoire du peuple d'Israël cet événement comme étant la réplique de ce que Abraham a vécu. Et là encore, Dieu a protégé le peuple, alors que les rois de ce monde pensaient en faire leur possession. Dieu intervient, Dieu délivre, et lorsque Dieu délivre, c'est la marche vers la terre promise. Maintenant, je crois que le peuple de Dieu, à la fin des temps, vit une expérience semblable aussi. Nous vivons une période de famine, une période de famine spirituelle. Il en est question dans le livre du prophète Amos. Amos, au chapitre 8, parle de cette famine à la fin des temps. Amos, chapitre 8, à partir du verset 11, il est écrit ceci. « Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre la parole de Dieu. » Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'Orient. Ils iront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel et ne la trouveront pas. Nous vivons, alors que nous approchons de la fin, cette période de disette, de famine de la parole de Dieu. Elle est difficile à trouver parce qu'en réalité, aujourd'hui, beaucoup n'en veulent pas. Mais le peuple de Dieu se trouve dans cette Égypte spirituelle-là. Dans une Égypte spirituelle où la parole de Dieu n'a pas encore sa place. C'est une situation dangereuse d'ailleurs pour le peuple de Dieu, dangereuse de se retrouver aussi esclave dans cette Égypte spirituelle. Vous vous en souvenez, c'est exactement le projet que le diable a contre l'Église de Dieu. D'en faire sa possession, de se l'approprier, de la gagner pour la perdre. Nous sommes aussi dans cette Égypte spirituelle où tout est fait dans le monde d'aujourd'hui pour contrecarrer la marche de ceux qui veulent suivre les commandements de Dieu et la foi de Jésus. D'ailleurs, le monde d'aujourd'hui cherche à nous rendre esclaves de toutes sortes de choses, de sorte que nous ne soyons pas esclaves de Christ. Et vous n'avez pas besoin de faire un grand effort d'imagination pour penser à tout ce que le monde d'aujourd'hui produit et qui a la capacité de nous rendre esclaves, que ce soit des machines ou des relations, des situations. La dépendance est vite développée dans ce monde qui est conçu pour cela. Et vous remarquez, nous avons vraiment l'impression que l'ennemi dans ce monde essaye de nous posséder. Combien d'ailleurs dans le monde sont possédés par l'esprit de l'ennemi. D'ailleurs, Jésus avait averti ses disciples que ce serait précisément l'action de l'ennemi à leur égard. Regardez dans l'évangile de Luc au chapitre 22, Jésus, vers la fin de sa vie sur terre, va avertir ses disciples. Évangile selon Luc au chapitre 22, au verset 31, Jésus s'adresse ici à Pierre. Évangile selon Luc, chapitre 22, au verset 31, il est écrit ceci. « Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. » Le diable réclame ce qu'il pense lui appartenir. Il veut en faire sa possession. Mais encore une fois, Dieu intervient. Jésus dit, « J'ai prié pour toi. » Nous avons cette assurance que Jésus, aujourd'hui, dans le sanctuaire céleste, intercède pour délivrer ses enfants qui sont en proie aux attaques de l'ennemi qui veut faire de son peuple, du peuple de Dieu, sa possession. Jésus dit, « J'ai prié pour toi. » Et si Jésus prie pour Pierre à ce moment-là, dans cette situation-là, ne pensez-vous pas que Jésus prie d'autant plus fort aujourd'hui pour nous, pour ces enfants qui sont dans le monde, en proie à des attaques de l'ennemi, d'autant plus fortes que la fin est proche? Ainsi, Dieu veut libérer son peuple. D'ailleurs, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 8 et 9, nous trouvons cet exposé des trompettes, des catastrophes qui frappent le monde, de la même manière que Dieu avait frappé l'Égypte des plaies pour que Pharaon laisse aller son peuple. Le monde aujourd'hui considère ces catastrophes comme le détraquement de la nature, mais pour ceux qui savent lire les signes des temps, ce sont en réalité l'action de Dieu pour interpeller le monde avant la fin. Laisse aller mon peuple. Dieu veut délivrer son peuple. Et Dieu ne veut pas simplement délivrer son peuple, il veut faire comme il a fait avec Abraham et comme il l'a fait lorsque le peuple est sorti d'Égypte, il veut le combler de richesses. Il ne va pas simplement le libérer, mais il va partir riche. De quelle richesse le peuple de Dieu va-t-il sortir de cet esclavage? Je vous propose de le regarder dans le livre de Malachie au chapitre 3. Malachie chapitre 3, dernier livre de l'Ancien Testament, avec une perspective prophétique, une perspective sur la fin des temps extrêmement importante. Malachie, chapitre 3. Au verset 2 et 3, il est écrit ceci. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, il fondra, il purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les purifiera comme on épure l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. La richesse que Dieu veut donner à son peuple quand il le libère de l'esclavage de l'Égypte spirituelle, c'est la richesse d'un caractère restauré à l'image de Christ. L'image est employée ici, épurer les métaux, l'or et l'argent. C'est cette richesse-là que Dieu veut donner à son peuple lorsqu'il le libère, lorsqu'il le prépare pour son retour. C'est dire à quel point Dieu a son Église à cœur. La femme, image du peuple de Dieu, est véritablement, pour reprendre les images bibliques, la demi-sœur de l'époux. Parce qu'en réalité, l'époux, Jésus, il est totalement notre frère, étant totalement homme, mais il est aussi totalement Dieu. N'est-il pas notre demi-frère? Il attend avec impatience les noces de l'agneau. Que cette épouse soit, comme il est dit dans l'Épître aux Éphésiens, sans reproche, parfaite, prête pour les noces. Dieu veut travailler avec l'Église, c'est son corps. Sans aucun doute, Dieu, par son esprit, interpelle les individus qui errent seuls dans le monde et qui cherchent sincèrement. Mais Dieu a rassemblé en Jésus-Christ tous ceux qui lui appartiennent. Parce que nous avons été rachetés par Jésus, nous lui appartenons, nous sommes sa possession. Le diable voudrait la lui arracher. Mais Dieu intervient parce que son Église lui est chère. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur, lorsqu'il invite des hommes, des femmes et des jeunes à s'engager envers lui, il les greffe automatiquement sur son corps. Ils deviennent automatiquement membres du corps de Christ, membres de l'Église, parce que Dieu veut travailler avec l'Église, Dieu veut fortifier l'Église, Dieu veut préparer l'Église, Dieu protège l'Église. J'aimerais terminer par un paragraphe que je trouve dans le livre « Conquérant Pacifique ». Et je trouve ce paragraphe extrêmement encourageant parce que c'est une promesse extraordinaire. Écrit il y a un siècle, Madame White écrivait ceci dans ce livre. « Durant les périodes de ténèbres spirituelles, l'Église de Dieu a été comme une cité placée sur une colline. À travers les siècles, de génération en génération, les pures doctrines d'en haut se sont développées dans son sein. Quelque faible et imparfaite qu'elle puisse être, elle est néanmoins l'unique objet sur lequel Dieu jette d'une manière toute spéciale un suprême regard. Elle est le théâtre de sa grâce, l'endroit où il se plaît à révéler sa puissance qui transforme les cœurs. » C'est une merveilleuse promesse. L'Église et d'une manière toute spéciale, l'objet de son suprême regard. Parce que dans l'Église, il agit d'une façon spéciale. L'Église, c'est le théâtre de sa grâce. C'est là qu'il se plaît à manifester sa puissance pour transformer les cœurs. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous a rassemblés. C'est la raison pour laquelle il rassemble tous ceux qui veulent lui appartenir. Parce qu'il y a dans l'Église des grâces particulières que Dieu veut déverser sur tous ceux qui veulent faire partie de son corps et se préparer pour son retour. Amen.